Des denrées alimentaires en RDC, le gouvernement congolais a pris une série de mesures pour endiguer cette misère, notamment l'augmentation de la quantité des produits alimentaires importés tels que le chinchard, le poulet, la viande, le sucre et le lait. Qu'est-ce qui explique cette flambée des prix? Comment analyser les mesures prises par le gouvernement pour résoudre ce problème? Nos invités sont Jean Bamanifa, député national et opérateur économique. Il a travaillé à la SEC comme président provincial et administrateur délégué. Honorable Bamanifa, bonsoir.
Oui, bonsoir Alain.
Serge Gonto, analyste politique et président de G1000, membre de la société civile. Monsieur Gonto, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Dieudonné Fikiri, directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale. Monsieur Fikiri, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes déjà très nombreux à réagir comme d'habitude. Arnold Ombeni, Mongo de Bukavu. Le gouvernement devrait prendre des mesures si après payer les salaires décents aux fonctionnaires et agents de l'État, revoir la politique agricole du pays pour encourager la production locale par l'ouverture de routes de dessertes agricoles, réduire sensiblement les frais de dédouanement pour les produits de première nécessité. Manuel de Matadioba Congo, cette décision n'est qu'une excuse de plus pour le gouvernement Mouzito. Que font-ils avec le meilleur budget de la RDC? Il y a vraiment absence de politique agricole et économique en RDC, ce qui est la conséquence réelle de cette hausse démesurée des prix de produits de première nécessité en RDC. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 58 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail écrivez-nous à tech@radiocapi.com.
La flambée des prix des denrées alimentaires est une réalité qui n'épargne aucune partie du territoire national. Cette question a même été sous examen au Conseil des ministres du 25 février dernier. Au cours du dit conseil, certaines mesures immédiates ont été prises en vue d'endiguer cette vie chère. C'est notamment l'augmentation du quota alimentaire des produits importés, à savoir le chinchard, le poulet, la viande, le sucre, le lait et autres. Pourtant, la RDC regorge des potentialités agricoles énormes. Pour preuve, des produits agricoles pourrissent dans des villages et campagnes faute de moyens d'évacuation. Jacques Molima a fait le tour des marchés.
Ces derniers jours, on a tendance à croire qu'on est volé par ceux qu'on envoie au marché. Une unité de manioc est vendue à 1000 francs congolais et celle de maïs à 1500 francs. Vraiment, les prix ont augmenté d'une manière exagérée.
Ces moules de maïs, manioc, riz blanc, poisson frais congelé, sucre, farine de froment, viande de bœuf. En tout cas, le prix de tous ces denrées alimentaires ont pris de l'ascenseur. À qui ce soit par exemple, près de 80% de cet échantillon viennent de l'étranger et leur prix sur le marché obéissent à différents facteurs externes et internes. Pourtant, ce sont des produits de grande consommation de la capitale et même dans plusieurs autres villes du pays. Mais malheureusement, ces produits augmentent des prix au jour le jour, ce qui n'est pas normal pour la population congolaise.
On devrait penser à réduire les prix parce que par rapport aux revenus du peuple congolais, surtout la basse classe, c'est vraiment pas normal.
Pas normal, mais comment penser réduire le prix s'il n'y a pas assez de produits sur le marché. Pourtant, des tonnes de vivres pourrissent dans nos villes de campagne.
Comment nous faire parvenir si ces produits ici, ils sont un moyen de transport? Voilà la cause de l'augmentation du jour au jour.
Tenez, au Bas-Congo par exemple, selon des agronomes de FAO, seulement 20% de la production agricole atteint le marché, ce qui est une réalité pour plusieurs territoires de la République démocratique du Congo.
Merci Jacques-Yves Molima, vous l'avez compris, cette émission a de grandes parties. Nous allons commencer par les causes de cette flambée des prix pour aborder les solutions dans la deuxième partie. Monsieur Dieudonné Fikiri, vous êtes directeur de cabinet du ministre de l'économie. Juste un exemple, un sac de maïs de 50 kilos se négocie aujourd'hui à Kinshasa à 90 000 francs, tandis que le même sac, le sac de 100 kilos se vend à 22 000 francs à Kikwito Bandundu. Qu'est-ce qui explique d'après vous cette hausse des prix des denrées alimentaires?
D'abord, je peux répondre en disant que votre micro-baladeur qui a approché beaucoup de gens, je crois qu'à travers les réponses déjà, il y a déjà une partie de réponse que je vais donner à la question que vous posez. D'abord, je voudrais vous dire que le fait, la situation actuelle de hausse de prix ne concerne pas seulement la RDC. C'est, et vous l'avez dit d'ailleurs dans ce jeu, vous avez dit que bon, il y a des facteurs endogènes, comme également il y a des facteurs exogènes. Je peux dire que si il m'est donné, comme il m'est donné d'analyser la question, j'ai dit en ce qui concerne les facteurs exogènes, par exemple, il suffit tout simplement d'analyser la structure contributive des différentes branches d'activité économique à l'accroissement du produit intérieur brut mondial. Vous constaterez à ce moment-là que, c'est vrai, l'économie mondiale a connu une croissance en 2010 de 5%, alors qu'en 2009, la croissance mondiale était négative. Mais on peut se poser la question, pourquoi, dans un contexte d'accroissement du PIB mondial, on se retrouve avec de situations de crise alimentaire, pas seulement en RDC, je le dis, c'est partout à travers le monde. Donc, le premier problème se situe, la première analyse doit être faite au niveau de la structure contributive de différentes grandes activités qui avaient contribué à l'accroissement du PIB mondial. Et c'est là également se répercute au niveau de la RDC, parce que au niveau de la RDC aussi, nous avons connu en 2010 un taux de croissance de près de 7%. Mais quand vous analysez les grandes activités contributives à cet accroissement du produit intérieur brut, vous constaterez que la contribution la plus importante provenait d'abord d'activités minières extractives. D'accord ? Suivi quelque part, donc, leur contribution a été de 3,33% au PIB. Alors que l'agriculture et la sylviculture, pêche et l'élevage, chez nous, n'a connu qu'un accroissement de 1,13%. Alors que, pendant ce temps, la croissance démographique au Congo varie entre 3 et 5%. Donc, vous comprenez que l'origine même des importations que nous connaissons par de la structure contributive des activités économiques intérieures. Ça, c'est un premier élément qui ne concerne pas seulement la RDC, mais qui concerne également le reste du monde. Parce que même l'accroissement du PIB mondial a été influencé par les activités des pays émergents qui, eux, concentrent leurs activités dans l'industrialisation. Le rattrapage, au fait, de l'industrialisation demande de pays avancés. Et si vous regardez bien, l'origine de la crise alimentaire, par exemple, nous, au Congo, je viens de le dire, l'agriculture et l'agriculture, 1,13% de contribution au PIB national, au PIB intérieur, alors que la démographie est à 3,5%, 3 ou 4%. Donc, il y a déjà un déficit pour ce niveau-là. Ça, c'est pour ce qui est de facteurs, un élément de facteurs exogènes. À cela, également, s'ajoute l'appréciation de l'euro face au dollar. Nous sommes dans une économie dollarisée. Aujourd'hui, si vous analysez la situation monétaire du pays, je crois que bon, le dollar, d'ailleurs, nous avons consacré cela à travers une constitution qui autorise la circulation concomitante de la monnaie nationale et de la devise étrangère, particulièrement le dollar. Or, si on analyse la situation monétaire internationale aujourd'hui, l'euro ne fait que prendre de la valeur face au dollar. Or, nous faisons toutes nos transactions en dollars. Donc, il y a un coût de taux de change qui intervient dans les opérations intérieures en République démocratique du Congo. Et à cela s'ajoute également le renchérissement du coût de fret maritime et des assurances pour des produits importés. Et je venais de le dire, les importations découle du fait que, dans la démonstration que je viens de donner, je vous ai dit que le PIB et la branche d'activité agriculture n'a connu un accroissement d'1,13%, là où nous avons 3% à 3,5% de croissance démographique.
Dieu de l'effet tiré.
Oui, permettez-moi que je vous arrête à ce niveau, le temps de faire réagir les autres intervenants, et on vous retrouve dans un second tour de table. Jean Bamanissa, vous êtes député national, opérateur économique, membre, ancien membre de l'ASEC, venez de suivre le directeur Dieudonné Fissiri, à cette flambée des prix est causée, à cette flambée des prix, il y a des causes endogènes, exogènes. Comment vous expliquez cette situation?
Ok, merci. Je voudrais d'abord dire, c'est vrai que bon, on peut faire beaucoup de théories sur ce point-là, mais ce qui nous devrait le plus nous intéresser, c'est de trouver des solutions. Et c'est vrai que je suis d'accord que sur le marché international, il y a eu augmentation de prix de carburant, il y a eu aussi beaucoup de spéculations qui ont été faites comme sur les produits financiers, qui ont été faites aussi sur les produits agricoles. Et ensuite, bon, en tout cas, par rapport aux marchés internationaux, il y a eu beaucoup plus de demandes dans certains coins du monde, parce que bon, il ne faut pas oublier que c'est vrai que cette population augmente. Et oui, depuis une dizaine d'années, les prix de blé, le prix de maïs, le prix de viande ont connu une légère augmentation. Mais seulement chez nous ici, ce n'est pas cette légère augmentation, c'est une très grande augmentation que nous avons. Il est vrai que souvent les textes réglementaires, on contrôle le prix a posteriori. Ils sont fixés par le gouvernement seulement pour l'électricité, l'énergie, le transport, etc. et l'eau. Mais pour le reste, l'opérateur économique calcule son prix à l'importation, y ajoute les charges locales, met son bénéfice qui est acceptable et vend son produit. Mais ici, là, c'est où bon, vous avez parlé des mesures qui doivent être prises. Écoutez, ça fait justement plusieurs années que j'ai été syndicaliste pour les entreprises, c'est vrai, mais en même temps, on voit ce qui se passe sur le marché. Ce n'est plus des constats à faire. Nous savons que nous avons une population, nous avions une population d'à peu près 25 millions d'habitants, qui est passée à 35, à 50, à 60 millions. Nous, qu'est-ce qui a été fait, suivant les chiffres, suivant cette évolution, pour permettre ce qu'il y ait une production locale et que ce qui manquait sur le marché puisse être importé? Parce qu'ici, on est en train de parler seulement de l'importation sans tenir compte de notre capacité de production, de l'autosuffisance qui doit être d'abord rencontré et ensuite de passer à l'exportation, mais nous privilégions l'importation. C'est une façon aussi d'appréhender les choses, hein. C'est une économie qui est basée sur la confiance.
Tourner vers l'extérieur.
Oui, vraiment la confiance, ou plutôt, je ne pourrais pas dire un mot beaucoup plus méchant, mais c'est laisser faire des opérateurs économiques. D'ailleurs, je pourrais vous dire, il y a eu peut-être 5-6 gros importateurs, mais qu'est-ce que l'État a fait depuis 10 ans, 15 ans pour qu'il y en ait 5 fois plus parce que sa population est en train de croître? Qu'est-ce qui a été fait pour permettre à ce que la logistique, les capacités de transport, les capacités de stockage puissent être rencontrées, le nombre important de volume qui va aller en croissant? Donc on se retrouve aujourd'hui avec une certaine quantité de produits qui sont importés, et ça, je voudrais bien savoir un peu si y a des services concernés savent combien de tonnes de riz exactement nous avons besoin dans notre pays, combien de tonnes de chincha exactement nous avons besoin dans notre pays. Ensuite, on pourrait alors faire ce calcul pour voir comment est-ce qu'on peut rencontrer le besoin de la population, et alors, bon, là, on va rentrer après peut-être sur cette surtaxation qui s'ajoute sur le prix.
Alors, honorable, quand vous parlez de l'absence de contrôle des prix, c'est que le gouvernement ne maîtrise pas ce secteur, en fait.
Écoutez, comme je dis, normalement, le prix est libre. En République démocratique du Congo, dans les dispositions réglementaires disent que les prix sont libres, prix d'achat à l'importation, les charges y sont ajoutées, et on met un bénéfice suivant les produits qui vont de 10 à 25%, si je ne me trompe pas. Le ministère de l'Économie est habilité, il vient faire les contrôles a posteriori. Mais non, là n'est pas le problème aujourd'hui, c'est que il y a une certaine liberté qui s'est mise en place, et il y a des contraintes que le gouvernement n'a toujours pas réussi à effacer. Quand vous me dites, je l'ai suivi, oui, le gouvernement a pris une mesure pour augmenter les quantités à l'importation. Ça veut dire que le gouvernement a acheté un bateau, ça veut dire que le gouvernement a mis des fonds à la disposition des opérateurs économiques pour leur permettre à ce qu'ils fassent et ils aient des crédits, parce qu'on sait qu'il y a de l'argent qui circule dans le système financier congolais, banque centrale, banque commerciale. Mais est-ce que cet argent est allé vers les opérateurs économiques pour leur permettre d'avoir des camions, d'avoir des points de stockage, des points de distribution? Mais si on ne le fait pas, on ne va jamais rencontrer le besoin de la population.
Serge Boncho, analyste politique et président du groupe 1000, membre de la société civile. Un autre exemple, le riz de sac. Le sac de riz importé de 25 kilos se vend l'équivalent de 23 000 francs. Pourtant, le sac de riz local est à 15 000 francs à Mbandaka et n'atteint même pas 10 000 à Bumba. Comment vous expliquez cette flambée pour vous?
Bien, c'est un constat général. C'est que c'est vrai, on vient de le dire, que les prix sont libres, mais on parle aussi d'un climat des affaires. On parle d'un climat des affaires. Si le gouvernement ne doit pas fixer les prix, mais il doit entretenir un certain climat, un environnement, qui fait que ces prix peuvent être contenus dans des proportions qui sont en rapport avec le pouvoir d'achat des citoyens, en rapport avec leur salaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous constatons plutôt que c'est comme si l'État a totalement abandonné ses responsabilités. Non seulement il a abandonné ses responsabilités, mais les gouvernements se sont impliqués eux-mêmes dans la mafia, dans des trafics de toutes sortes. Si bien que, d'abord, ils commencent par rançonner les opérateurs économiques qui viennent ici, les étrangers, généralement, qui leur donnent des commissions. Et quant aux petits peuples, ceux qui peuvent animer des petites et moyennes entreprises, ils ne sont pas soutenus, il n'y a aucune politique réelle pour l'octroi des crédits, ils n'ont pas droit au crédit, donc ils ne peuvent pas non plus mener des affaires. C'est un petit groupe qui prend le monopole de l'affaire. Vous y mettez la corruption, vous y mettez le manque de politique de développement agricole ou de politique économique générale, eh bien, la machine s'emballe. Et c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Donc, en un mot, je peux dire que, économiquement parlant, le pays n'est pas du tout gouverné.
L'honorable Bamanis a soulevé une question importante. Est-ce que les services compétents peuvent évaluer aujourd'hui combien de tonnes de Saint-Char avons-nous besoin, de sacs de riz? Y a-t-il également un problème d'évaluation de besoins de la population? Parce que la population continue à augmenter, en fait.
Je crois que la dernière phrase que j'ai donnée ici résume tout. Le pays, réellement, il n'est pas gouverné. Nous ne savons pas quelle est notre population. Nous n'avons pas de statistiques, nous ne savons pas qui fait quoi. Les gens sont occupés à ponctionner l'argent de l'État. Je connais des amis qui travaillent dans certaines entreprises de la place, et des amis qui travaillent dans des régies financières, et ils me disent clairement que pratiquement tout l'argent qui est versé là-bas est distribué entre les opérateurs, entre les contrôleurs, les inspecteurs, les directeurs, les sous-directeurs, ils se partagent tout cet argent. Mais quand il y a la corruption jusqu'à ce niveau, comment pouvez-vous avoir les statistiques réelles de l'économie? C'est impossible. Avec la gangrène de la corruption, il n'y a aucune donnée fiable en cette matière.
Mais, le directeur du Denis Sikiri, que vous avez suivi tout à l'heure, a insisté sur le contexte économique international.
C'est une bonne excuse. C'est vraiment une très bonne excuse. Mais le contexte économique international doit pouvoir être quantifié. Ils doivent pouvoir faire des calculs, dire, suite à ceci, voici l'impact de la crise économique mondiale. Et voici les mesures que nous prenons pour limiter la casse chez nous. Il n'y a rien de tout cela. Et c'est comme si, en dehors de cette crise internationale, tout irait pour le meilleur dans notre pays, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est une belle excuse qui ne veut rien dire du tout.
Dieudonné Sikiri, vous avez suivi l'honorable Bamanisa et Serge Gonto. Comment vous réagissez à leurs propos?
Non, d'abord, je n'ai pas du tout apprécié le fait de ne pas nous laisser aller jusqu'au bout, parce que vous m'avez posé la question de savoir quelles sont les causes de l'accélération des prix antérieurs en RDC. Je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il y avait deux causes, d'origine exogène et d'origine endogène. À peine je terminais d'exposer sur les origines endogènes, vous avez passé la parole aux autres intervenants, qui eux, finalement, ont abordé le deuxième volet du débat. Parce que j'ai pu comprendre que vous avez stratifié le débat à deux niveaux. D'abord les causes, et ensuite les mesures que nous avons.
Dominique Thierry, allez-y, parce que vous êtes largement en avance sur le temps, alors si vous revenez sur ces considérations,
alors,
on perd le temps.
L'honorable Manissa a déjà abordé les problèmes de charge intérieure. Parce que là, je disais, dans le facteur interne, il y a également les problèmes logistiques d'évacuation. Il en a parlé. Parce que on a une faiblesse de capacité de traitement de marchandises qui arrivent. Le transport ferroviaire via l'ONATRA également accuse de faiblesse. À cela s'ajoutent aussi les problèmes de tracasserie administrative et autres. L'électricité des services au niveau de ports et même la spéculation. Vous en avez parlé, les intervenants en ont parlé, la spéculation dans les chefs d'opérateurs économiques. Je suis d'accord avec eux pour ce qui est de facteurs endogènes. Maintenant, par rapport aux mesures, on dit, primo, si j'ai bien noté, on dit combien de tonnes de charge, absence de contrôle de prix. Ça veut dire quoi que le gouvernement a importé de marchandises, de produits de première nécessité? Est-ce à dire qu'on a acheté des bateaux ou quoi? En tout cas, en définitive, c'est l'abandon de responsabilité dans le chef du gouvernement. Alors, moi, je peux réagir d'abord par la quantification. J'ai dit, pour les charges, nous savons très bien, par exemple, pour la ville de Kinshasa ici, nous avons besoin de 9000 tonnes le mois. Ça nous conduit à 108000 tonnes l'an. Mais aujourd'hui, par rapport à la fourniture, donc à l'approvisionnement intérieur du pays, nous ne recevons que quelque chose comme 82000 tonnes. L'essence justifiée, un déficit de près de 26000 tonnes l'an et un quart. Ça, c'est une quantification. Dans tous les produits, il y a des quantifications parce que nous connaissons les besoins du pays, les besoins nationaux et particulièrement la ville de Kinshasa en ce qui concerne chacun des produits pour lesquels on a eu à prendre des mesures. Alors, on dit, bon, écoutez, pour quelles raisons il n'y a pas de mesures importantes que le gouvernement prend. Certains auditeurs au téléphone m'ont dit qu'il faut baisser les taxes. Là, j'ai suivi que les mesures actuelles, ce sont des excuses. Mais je peux dire que, personnellement, je ne peux que apprécier les différentes mesures qui ont été prises. Et je dis, il faut mettre tout dans l'ensemble, partant de l'extérieur, combiné aux difficultés intérieures, en vue de définir des mesures sanitaires pour la population congolaise. Mais pourquoi je dis que ces mesures gouvernementales ne peuvent qu'être appréciées à l'heure de ce titre? Parce que ces mesures concernent non seulement l'offre globale dans l'économie, mais ça concerne également la demande globale dans l'économie. Et je commence par l'offre.
Résumez-vous, je vous en prie.
Oui, c'est ce que je dis. Je commence par l'offre. L'offre, on en a parlé, le gouvernement envisage de mettre en place un partenariat public-privé. Ce n'est pas que le gouvernement se mettrait à importer des bateaux. La raison pour laquelle vous avez vu des opérateurs économiques norvégiens qui sont venus ici. Ils viennent dans le but de booster la production intérieure, en ce qui concerne par exemple le poisson et autres. Et pendant ce temps, parce qu'il faut préserver le pouvoir d'achat de la population, pendant ce temps, on est en train de donner des mesures de facilitation en ce qui concerne les importations de produits de première nécessité. On ne va pas baisser les bras, disons, parce qu'on commence avec les actions de boostage de la production intérieure, eh bien, abandonnons les importations.
Oui, permettez que je vous arrête à ce niveau. Vous êtes déjà dans la deuxième partie. Nous l'abordons directement. Sachez que pour lutter contre la flambée des prix des denrées alimentaires en RDC, le gouvernement, comme vous l'avez dit, a pris une série de mesures allant de la relance de l'agriculture par l'exonération d'intrants agricoles à l'interconnexion des axes routiers pour l'évacuation des produits agricoles. Selon le ministre de l'Économie nationale, l'objectif de ces mesures qui se déclinent sur trois axes est de permettre à la RDC de ne plus vivre de l'extérieur, mais de produire pour son autosuffisance alimentaire et en aval être en mesure d'exporter. Le ministre de l'Économie, Jean-Marie Boulambo, nous parle de ces mesures au micro de Guy Maté.
Le très court terme, c'est-à-dire provisoire, nous a poussé à rentrer dans l'offre extérieure et dans l'offre intérieure. L'offre extérieure pour maîtriser les quantités et les valeurs, et au niveau intérieur, l'aération de la structure de prix à travers l'élagation d'un certain nombre de prélèvements qui font double emploi et d'autres sans contrepartie. Aussi, nous allons à l'intérieur du pays traiter, conditionner et évacuer les excédents de produits agricoles que nous avons. À ce qui concerne les courts termes, nous allons renforcer les capacités de production, notamment de nos pêcheurs, par l'apport du matériel léger de pêche, par la formation de pêcheurs, par l'appui aux cultivateurs. Vous avez tous les importateurs qui sont invités à produire ce qu'ils importent, à produire ça localement. Et nous allons disponibiliser pour cela des fermes, des concessions où ils vont devoir cultiver, des endroits où ils vont se donner à l'élevage, des endroits et des lacs où ils vont se donner à la pêche. Et enfin, à moyen terme, il sera maintenant question d'inscrire l'action dans la durée, notamment par diverses allocations ou bien faveurs fiscales à donner à ces opérateurs économiques, de manière à ce que le pays ne vive plus de l'extérieur.
Honorable Jean Bamanissa, vous venez de suivre le ministre de l'économie, complété d'ailleurs par son DIRCAP qui avait déjà commencé à énoncer ces mesures. Êtes-vous rassuré?
J'ai bien suivi l'honorable ministre de l'économie et je suis satisfait de ce qu'ils sont en train de dire, mais pas tout à fait, parce que ces solutions-là ne vont pas rencontrer, en tout cas, le problème qui se pose aujourd'hui.
Pourquoi ?
Parce que, vous savez, c'est bien beau, vous savez, si on comptait le nombre de ministres de l'économie qui sont passés, on serait très étonné. Le nombre de ministres de l'agriculture, on serait très étonné. Je crois qu'on est à 42... depuis 60. Mais voilà, ce qui manque, c'est pratiquement une politique d'ensemble. Parce que pour faire face à ça, on a eu la crise alimentaire, on a eu la crise financière. L'année 2009, 2010, ça a commencé un peu à aller mieux. Mais qu'a-t-on fait entre-temps ? C'est un peu ça le problème où je dis, bon, là, maintenant, est-ce que les quelques Norvégiens qui vont venir, c'est eux qui vont pouvoir produire les 27 000 tonnes qui manquent, ou après peut-être même remplacer ce qu'il y a ici. Mais voilà, il y a des mesures, il y a des plantations qui étaient abandonnées du fait de la zaryanisation. Ça fait des années qu'on en parle, et puis il faut les donner à des nouveaux opérateurs. Bon, là, ok. Moi, je pense qu'à ce niveau-ci, surtout que nous sommes du Parlement, cette question a été posée à plusieurs reprises et elle risque d'être posée au retour maintenant. Ce que je peux encourager l'honorable ministre, c'est que on veut voir des mesures immédiates. Nous n'avons pas besoin de l'entendre dire qu'on va faire telle chose. Nous voudrions savoir qu'il a exécuté telle et telle mesure et pour lequel nous attendons des résultats.
Quand vous voulez dire que toutes ces mesures, c'est un chapelet de bonnes intentions.
Non, mais parce que, écoutez, ça, vous savez, ça fait des années qu'on est ici dans notre pays à parfois entendre les bonnes intentions. Nous avons besoin des actions maintenant, parce que, vous savez, le problème de l'alimentation, ça doit être le problème numéro un d'une action, d'un plan du gouvernement, de sa politique. C'est d'abord l'alimentation de la population.
Prenons cette réaction qui vient de Mbandaka à l'Équateur pour vous, honorable Bamanissa.
Province de l'Équateur. À mon avis, le gouvernement devra mettre en place une politique de soutien de la production nationale à travers un certain nombre d'actions, notamment le financement de la production nationale au travers des facilités bancaires, la réhabilitation des routes, la réorganisation du système de transport. transport, en donnant plus de moyens à l'ONATRA pour le transport fluvial, la lutte contre les tracasseries de toutes sortes, notamment administratives, policières, coutumières, etc. Que le gouvernement cesse de transformer la RDC à un marché pour des produits étrangers, car il est en train de financer les économies d'autres pays au détriment de celles de la RDC.
Réaction honorable, Van Aris.
Tout à fait d'accord. Hein, on est en train de tourner en rond sur les constats et ce qu'on dit aujourd'hui, on l'a dit il y a 10 ans et on l'a dit il y a 15 ans. Je vais poser une question, une simple question. L'ONATRA qui appartient au gouvernement, c'est vrai qu'aujourd'hui elle a changé son identité, elle est devenue société commerciale, mais qu'attend-on depuis plus de 15 ans pour diminuer le prix des prestations de l'ONATRA, de l'OCC, du FPI? L'OCC et FPI représentent 6% sur la valeur. Qu'est-ce qu'on attend? C'est une décision qui doit être prise immédiatement.
Oui, il n'y a pas à tourner en rond autour de ça. Alors, quelles pourraient être, d'après vous, les propositions pour que dans l'immédiat, on trouve des solutions à cette situation?
Nous devrions calculer, par exemple, si le riz vient ici chez nous, nous devrions normalement être capables de le réexporter sur Bangui, de le réexporter sur Brazzaville. Et à ce moment-là, nous pourrions dire que nos prix sont intéressants parce que nous sommes, par rapport au marché de la sous-région, concurrentiels. Ce qu'il faut, c'est calculer la sortie de prix de chaque produit de première nécessité. Et alors, d'une façon, avec une volonté et un pouvoir politique de ceux qui sont aux affaires, c'est de casser ou alors d'annuler complètement ce type de tracasserie et ce type de surtaxation qui sont faites sur le produit. ONATRA, transport, les différentes taxes qui sont appliquées, qui rendent finalement le produit excessivement cher.
Serge Gonto, vous avez suivi tout à l'heure le ministre ainsi que le GERCAB. Il faut à très court terme organiser les PME congolaises pour importer en leur accordant des facilités, des crédits, traiter, conditionner, évacuer les produits à l'intérieur du pays, renforcer les capacités des pêcheurs. Comment vous analysez ces mesures?
Je suis tenté de dire que j'aimerais bien voir le ministre, le regarder dans les yeux, et voir s'il peut nous regarder, nous les citoyens, et continuer à débiter le chapelet de ses bonnes intentions.
Pourquoi vous êtes si pessimiste?
Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste, je ne vais pas avec le dos de la cuillère. Je félicite mon voisin, M. Bamanissa, qui a un langage très diplomatique pour dire les choses, mais moi je suis du ventre de la société. Toutes ces belles explications, ces théories, ces analyses qu'on nous donne, c'est bien beau. Mais ça fait 50 ans que nous sommes sur la pente descendante concernant la situation sociale des gens. Ailleurs, malgré la crise, les gens vivent, ils se débrouillent tant bien que mal. Nous, nous cessons de décliner. Et le ministre vient me faire des théories. J'ai entendu le directeur de DIRSA d'ici faire pratiquement tout un cours d'université. Il parle très bien. Moi, je crois, je me dis parfois, si ça sert à quelque chose de proposer quoi que ce soit. Dans ce pays, nous savons que le grand problème, c'est la corruption. Les gouvernants sont dans l'affairisme au niveau de l'État. Ils sont dans tous les coups. On nous dit maintenant que on a pris quelques mesures pour établir un partenariat public-privé. Moi, je pense que quelque part là-dedans, nous savons comment ça se passe. C'est-à-dire, on tue les entreprises de l'État. Là, on peut faire un effort, on ne fait absolument rien. On les tue exprès, et puis après, on amène des bailleurs de fonds, des hommes d'affaires étrangers, on leur cède ces entreprises, et eux-mêmes se retrouvent dedans comme actionnaires. C'est la truanderie. Donc, avec toutes ces choses, vous pouvez proposer tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune volonté réelle de faire quoi que ce soit de bien pour la population.
Donc, vous voulez dire que cette situation n'a pas de solution, finalement?
Il n'y a pas de solution avec ce gouvernement. Mais ça ne fait rien de tourner autour du pot. La corruption a atteint un niveau impossible. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans un pays où la corruption est élevée au niveau de valeur? Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez qu'à souhaiter le changement. Il n'y a rien d'autre à faire. Toutes ces théories que nous donnons, ça ne sert absolument à rien.
Donc il faut renforcer la gouvernance.
Oui, bon, disons, il faut renforcer la gouvernance. Ça ne veut presque rien dire, parce que toutes ces personnes savent qu'il faut renforcer la gouvernance, mais ils savent très bien qu'ils sont dans une mafia, et tout ce qu'on peut dire, ça ne servira à rien.
Mais tu ne vous parles en train d'effrayer toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre.
Mais oui, il faut les effrayer, parce que si nous ne les effrayons pas, nous ne leur faisons pas prendre conscience de la mafia dans laquelle du racket qui est organisé au niveau de l'État. Comment prendront-ils conscience et comment s'élèveront-ils pour amener le changement? Il faut que les citoyens soient informés de la réalité de ce que font les gouvernants, parce que ces mêmes personnes, bientôt là, elles vont revenir pour vous dire, voilà, on a très bien gouverné, remettez-nous en place. Il faut que le peuple le sache pour le sanctionner. C'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment.
Donc vous balayez d'un revers de la main toutes ces mesures proposées par le gouvernement.
Mais M. Bamadi, ça vient de le dire. Nous avons entendu ces discours combien de fois? Et vous allez continuer à croire à toutes ces histoires. Vous savez, la patience, quand elle n'a pas de fin, n'est plus la patience, mais elle devient de la passivité.
Prenons cette réaction qui nous vient de Kamanga pour vous, Serge Gontcho.
Théophile, Jean-Bac de Kamanga au Kassai occidental. S'il y a flambé des prix, c'est une conséquence d'une mauvaise politique en matière de la production nationale. Et moi, je pense que la meilleure façon de faire serait d'appliquer les principes du protectionnisme qui consiste à limiter l'importation de certains produits en vue d'encourager les entreprises ou les industries locales au lieu de recourir encore à l'importation.
Tiens, j'ai conscience.
Bien, je remercie notre ami Théophile Chamba, j'ai retenu le nom. C'est très bien. Vous savez, à la limite, qu'il y ait protectionnisme ou qu'il y ait libre entreprise, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais je dis, toutes ces choses ont des résultats, quelque part, quand il y a de la bonne volonté. Quand il y a de la bonne volonté, ce système-là peut fonctionner. C'est comme le capitalisme, le socialisme, dans une certaine mesure, ça est... On peut toujours s'en sortir, aller vers l'avant. Bon, pour le moment, le point essentiel, c'est de dire que nous avons besoin d'une bonne gouvernance. Et tous ces réflexes sont des choix qu'on peut faire le moment venu, mais il faut qu'on ait quand même un minimum qui ne dépend ni de la droite ni de la gauche, mais tout simplement de l'honnêteté dans la gestion de la chose publique.
Dieudonné Fikiri, vous êtes en avance sur le temps, je vais vous demander une brève réaction. Vous avez suivi les deux interlocuteurs qui pensent que c'est un chapelet de bonne volonté, qu'il n'y a pas de solution immédiate à cette situation.
D'accord. Moi, je retiens une chose, c'est que la qualité des mesures gouvernementales n'est pas remise en cause. Parce que je comprends. Mais l'inquiétude tourne autour de l'exécution des mesures. Alors, et on dit que ces mesures, c'est un chapelet d'intentions qui pourrait ne pas connaître un début d'exécution. Donc, du point de vue de la qualité du travail fait, donc des mesures arrêtées, nous nous sommes accordés. Maintenant, pour ce qui est de l'exécution, je pense que la balle est dans le camp de la population. Si on parle de bonne ou mauvaise gouvernance économique, il revient à la population de sanctionner parce que le gouvernement travaille sous le contrôle d'un parlement qui existe. C'est le parlement qui a l'obligation de contrôler les actions gouvernementales.
Merci. Permettez que je vous arrête à ce niveau parce que je vous ai signalé que vous étiez en avance sur le temps, honorable Bamanissa, vous êtes directement indexé.
Écoutez, oui, c'est vrai qu'il faut contrôler, mais en même temps, tout autour de cette politique, la politique agricole, par exemple, je dois vous dire ici que depuis 3 ans, moi, j'ai posé une proposition de loi agricole, mais avec les jeux politiques, cette proposition de loi n'a jamais été présentée, au contraire, un autre texte est venu pour l'écarter. Mais pourtant, cela tournait autour d'une... vision pour que notre production agricole puisse être optimale et pouvoir vraiment répondre aux besoins et tourner surtout sur le paysanat. aujourd'hui, on est là, on est en train de tourner. C'est vrai que bon, il y a des actions qui se font, l'ANCL fonctionne, mais bon, il en faut une dizaine comme ça autour de la ville de Kinshasa. Il y a des fermes, etc. Il faut donner une impulsion à ceux qui aujourd'hui sont en train de se lancer dans l'agriculture. C'est très bien aussi. Par rapport aux travaux qui sont en train d'être faits dans la République, les grands axes sont priorisés parce que ça va permettre à ce qu'il y ait la mobilité des produits.
Mais en même temps, c'est à long terme.
C'est à long terme.
Dans les médias,
par exemple, un jour un ministre m'a dit ça, je suis allé tout de suite le voir dans son bureau, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous me dites? On a le fleuve. On a plusieurs milliers de kilomètres de fleuve et des rivières. Ça fait 20 ans qu'on en parle, il faudrait mettre des bateaux pour pouvoir emmener les produits vers le point de consommation. Et ce n'est pas fait. Je vois la route, par exemple, de Kisangani jusqu'à Bounia, au Béni, etc., était ouverte. Mais le jour où on a inauguré, je l'ai vu, parce que qu'est-ce qu'on a prévu d'emmener des bateaux à Kisangani? Les camions sont descendus de Béni, ils n'ont trouvé aucun moyen de transport jusqu'à Kinshasa, les légumes ont pourri et les gens sont rentrés. Donc il y a ça aussi, et la Fédération des entreprises ou les autres corporations des entreprises doivent aussi s'impliquer pour permettre à ce qu'il y ait justement ce partenariat public-privé pour arriver à accompagner aussi les actions du gouvernement.
Serge Gontier, il y a des auditeurs qui nous écrivent, Jean-Marc Véco de Guémena à l'Équateur, comment ne pas assister à cette hausse vertigineuse des prix lorsqu'on assiste à plusieurs lancements de travaux de réhabilitation de routes et dessertes agricoles sans assister à l'inauguration de ces routes? Ces travaux commencent pour ne jamais finir. Bavon-Moulimi de Kisangani en province orientale, le gouvernement congolais devrait multiplier les efforts pour entretenir les routes de dessertes agricoles afin de désenclaver les différents coins. Guy-Roger Mozagba, il faut éduquer les consommateurs à acheter au prix le plus bas, car il est étonnant de voir comment les gens dépensent des grosses sommes pour s'acheter des produits alors que ces derniers sont vendus au double, triple ou quadruple. Serge Gontio, quelle pourrait être la contribution de la société civile à ce niveau?
Mais je dois d'abord solliciter M. Fikiri, qui a eu la sincérité de reconnaître entre les lignes que la mauvaise gouvernance est là et que quelque part il fallait que la population s'assume et puisse sanctionner. Nous serions dans des régimes plus démocratiques, avec une société civile plus éveillée, on organiserait vraiment des manifestations publiques pour exprimer la colère. Il y a des gens qui sont descendus dans les rues parce que le prix du pain était légèrement en hausse. Mais chez nous, c'est catastrophique. Si vous voulez organiser des marches, c'est vraiment difficile.
Mais ne faudrait-il pas que la société civile adopte d'autres mécanismes de contrôle, comme a dit le directeur Piquéry?
La société civile n'a pas de mécanisme de contrôle autre que d'exercer la pression sur ses représentants, que sont les députés, afin que ceux-ci, à leur tour, puissent exercer leur pouvoir de contrôle sur le gouvernement. Mais vous venez bien d'entendre que M. la ministre, par exemple, a introduit, je ne sais pas comment elle appelait ça, une loi, une proposition, quelque chose comme ça, pour contrôler, que c'est resté lettre morte pendant plusieurs années, et puis on l'a oublié. Donc les parlementaires ne font pas leur travail. Vous avez vu d'ailleurs quelquefois il y a eu des semblants d'interpellation avec beaucoup de théâtre et à la fin il n'a jamais rien eu, aucune sanction, absolument rien du tout. Bon, donc là, ce que la société civile doit pouvoir faire, c'est demain commencer à exercer une plus grande pression dans la rue.
Un mot de conclusion, il ne faudrait pas encourager les masses dans la rue, mais comment vous concluez?
Eh bien, je ne sais pas dire grand-chose pour le moment. Je prédis tout simplement vivement la fin de ce gouvernement, de ce régime, et qu'on passe à autre chose.
Honorable Bamanista, un mot en guise de conclusion.
Oui, écoutez, ce que je voudrais dire, c'est qu'il nous faut une politique, il faut une vision, pour que nous puissions savoir si nous serons demain des producteurs de blé, nous serons des producteurs de maïs, quel sera le nombre de notre population, et mettre en place des mécanismes de production et avec l'appui. Tout ce que les opérateurs et les auditeurs ont dit sont vrais, qu'il faut y travailler.
Merci. Dieudonné Fikiri, un mot en guise de conclusion, que dire à toute cette population, comment la rassurer, toutes ces personnes qui vous entendent?
Moi, je retiens tout simplement que le mesure de l'ABC comprend leur pertinence et nous demandons l'accompagnement de tout le monde pour les activités, pour le mieux-être de la population congolaise.
Merci, c'est par vous que nous terminons cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. À demain pour un autre numéro. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiopathie.net.